Allora, on est arrivé au chapitre 8. On est à la moitié, là. La moitié de la première épître. Et ce soir, on va parler de la liberté chrétienne. Et ses limites. Où est-ce qu'elle doit s'arrêter, cette liberté chrétienne que nous avons? Et je vais vous raconter l'introduction, une petite histoire. On raconte que Abraham Lincoln s'est rendu un jour sur la place où est-ce qu'il avait une vente d'esclaves. Une jeune femme noire très belle, elle était là, et qu'il était là pour être vendu, quoi. Lincoln, il fit une offre qui fut contrée automatiquement, parce que l'esclave, elle était une très jolie femme. La jeune femme, les prix augmentaient rapidement, constamment ils augmentaient, mais Lincoln l'a continué à enchérir aussi. Et la jeune femme, il lui fut donné, parce qu'elle a misé le plus, et tout de suite, elle s'est tournée vers lui et lui a dit « Maintenant, commencent les abus que je dois subir. » Il lui a dit à Lincoln. C'est-à-dire, maintenant que tu m'as acheté, je suis une belle femme, hein, tu vas t'amuser avec moi. Lincoln l'étonna en disant, mais non, tu peux faire ce que tu veux. Vous voulez dire que je peux parler, je peux aller où je veux? Il a dit oui, oui. Et Lincoln lui a dit, à partir de maintenant, tu es libre. À partir de maintenant, tu es libre. Et alors, elle, avec les larmes aux yeux, lui a dit, si c'est le cas, je veux rester avec toi et vivre avec toi. Pourquoi je vous ai dit ça? C'est une belle illustration de ce qui doit être notre relation avec Jésus-Christ. Parce que nous savons que nous étions des esclaves. Et c'est Jésus-Christ qui nous a délivrés de l'esclavage. Il nous a sortis de marché des esclaves. Parce que nous étions dans un marché où c'est constamment esclave, hein? Esclave du péché. Mais Jésus nous en a sortis. Et s'il nous a sortis, nous ne pouvons plus y retourner. Un peu ce qu'il a dit, hein, ce président à cette jeune femme. Il a dit, voilà, je t'ai acheté, mais tu es libre. Et il a dit, si c'est le cas, je veux rester constamment près de toi. Et c'est l'illustration, encore une fois, de ce que le Seigneur a fait avec nous. Hein. Si le Fils vous affranchit, oui, vous serez réellement libre. Plus esclave du péché, mais libre. Voilà pourquoi il y a une liberté chrétienne. Mais aussi, il y a des limites. Voilà, Paul, justement, il explique cela dans ses chapitres. Vous savez, la Bible est fermement attachée à la liberté. Fermement attachée à la liberté. Dans Galates 5, 1, il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Demeurez donc fermes et ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Nous sommes libres. Un peu comme à notre endroit, il a dit, il dit aux gens qui s'étaient convertis, entre guillemets, hein, mais ils avaient apostasié et les avaient traités, Pierre, je crois que c'est Pierre, des cochons. Il a dit, ces cochons, ils sont retournés à leur vomi. Et c'est ça, lorsqu'on accepte le Seigneur et ensuite on apostasie complètement, on est retourné esclave. Esclave. Et dans Romains 7, 6, il nous dit, mais maintenant, nous sommes dégagés de la loi, car nous sommes morts à ce qui nous tenait captifs. de sorte que nous ne servons sous un régime nouveau de l'esprit et non plus sous le régime ancien de la lettre. Maintenant, c'est l'esprit. C'est l'esprit que nous avons. Hein? Et voilà. Alors, encore une fois, quelle est cette liberté chrétienne? Si vous en souvenez, dans le chapitre 5, Paul il a dit, tout est permis. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Et ici, justement, Paul il y revient et il nous montre la vraie liberté chrétienne. Où est-ce qu'elle s'arrête, cette liberté, hein? Et dans Galates encore à 5, 13, il nous est dit, frères, vous avez été appelés à la liberté. Nous avons été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Voilà, j'ai accepté le Seigneur Jésus, hein, on m'a dit, je suis sauvé et je vis comme il me semble bon. Mangeons et buvons, ne nous occupons pas d'autre chose. Et Paul il nous l'a dit, c'est pas parce que vous êtes sauvé que vous avez cette liberté de vivre dans le péché. Nous avons été libérés. Et vous savez, c'est toujours pareil. Hein? En France comme ailleurs, on est un pays libre. On peut prendre la voiture et sortir, rouler. Si on se comporte d'une façon comme il faut, personne ne nous dira rien. La police il ne nous arrêtera pas. Mais lorsqu'il y a quelque chose qui cloche, alors là, liberté, oui, mais... Mais, alors, lisons ce chapitre 8, verset 1, tous les chapitres. Voilà ce qu'il dit, Paul. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles, et leur conscience, qui est faible, en est souillée. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idoles, sa conscience à lui qui est faible, ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Et ainsi le faible périra par ta connaissance. Les frères sur lesquels le Christ est mort, en péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais des viandes afin de ne pas scandaliser mon frère. Voilà, ici, Paul, dans ce chapitre, il ne traite pas d'une façon complète la question des viandes sacrifiées, parce qu'on va les retrouver au chapitre 10. Hein? Mais il annonce deux principes, dans ces 13 versets, deux principes pour respecter les autres. Respecter les autres, hein, dans l'exercice de notre liberté. Je suis libre, mais dans cette liberté, il faut que je l'utilise pour respecter les autres. Parce que en respectant les autres, je montre l'amour de Dieu. Voilà pourquoi Paul. Et le premier principe, c'est le principe de la conscience. La conscience. Au premier verset, il dit, pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles. Vous savez, on en a déjà parlé. Corinthe, c'est une ville spéciale. C'est une ville païenne. Et dans cette ville, il y avait beaucoup de temples, beaucoup de dieux, de déesses. Et les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils achetaient la viande, ils l'amenaient dans le temple et ils la faisaient brûler. Et il y avait des parties qu'ils allaient au prêtre et une partie, ils allaient à ceux qui amenaient la viande. Et ceux qui amenaient la viande, une fois qu'on leur donnait la viande, qu'il était voué à la déesse ou au dieu, ils pouvaient la prendre. Tout à côté de chaque temple, il y avait une grande pièce dans laquelle les gens, lorsqu'on leur donnait la viande, ils pouvaient se réunir pour manger et ils invitaient ses amis, ils invitaient ses connaissances, ils étaient ensemble et ils mangeaient toutes ces choses-là. Et il y avait aussi la viande des prêtres, alors vous imaginez qu'ils n'en recevaient des tonnes. Donc, ceux qui s'étaient en plus, ils la vendaient. Donc, voilà pourquoi il y avait posé cette question. Les chrétiens, ils avaient posé cette question. Comment est-ce que je dois me comporter lorsque j'achète de la viande? Est-ce que c'est de la viande qui a été, entre guillemets, purifiée parce qu'il a été donné aux déesses, ou sinon aux dieux, ou sinon, si une connaissance, il m'invite à manger cette viande qui a été, soi-disant, purifiée, est-ce que je dois la manger? Ça, c'est des questions que les païens ici posent, mais c'est des païens convertis. Parce qu'ils croyaient qu'une fois convertis, il fallait tout abandonner. C'est un peu comme aujourd'hui, lorsque quelqu'un il s'est converti à Christ. Est-ce qu'il doit abandonner tous ses amis, abandonner ce qu'il faisait et tout ça? Non, il ne doit pas le faire. Voilà pourquoi il y avait cette chose-là à régler. Hein? Pourquoi est-ce qu'ils ramenaient la viande? Ce n'est pas comme dans les peuples juifs qu'ils faisaient des sacrifices pour leur péché. Mais ici, c'est pour recevoir des bienfaits de la déesse ou du dieu auquel ils donnaient cette viande. Et c'est un peu encore la même chose aujourd'hui dans la religion catholique. Hein? On essaie de donner à Dieu pour recevoir. Oh, Dieu, il n'a besoin de rien. Il n'a pas besoin qu'on lui donne quelque chose pour qu'il puisse nous bénir. La chose, on a déjà vu que Dieu il nous demande, c'est seulement d'obéir et avoir le cœur changé. Et c'est ça aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui vont dans les églises seulement lorsqu'ils ont dans le besoin. Parce qu'ils croient que Dieu, c'est la boîte à Pandore. C'est le bon Dieu que tu demandes et il te donne. Voilà, c'est ça. C'est un peu comme celui qui était venu voir Jésus, vous vous souvenez, il a dit « bon maître ». Que dois-je faire, président? Il dit, pourquoi tu m'appelles bon? Il n'y a que Dieu qui est bon. Et c'était, entre guillemets, il voulait dire, est-ce que tu reconnais que je suis Dieu? Tu m'appelles bon. Mais tu sais bien que personne n'est bon. Il n'y a que Dieu qui est bon. Et tu m'appelles bon. Et il m'a montré ce qu'il devait faire. Voilà pourquoi aujourd'hui, cette chose-là, c'est un peu ce qu'il a fait Caïn. Hein? Caïn, il a essayé d'avoir les bénéfices de Dieu en lui offrant les meilleurs fruits de la terre que lui-même il avait cultivé. Et pourtant, on peut se dire, et pourtant, il a fait ça de bon cœur. Hein. Il a donné les fruits de son travail. Mais non, Dieu, il n'a pas demandé ça. Tu veux me glorifier? Tu veux me donner gloire et honneur? Fais ce que moi je t'ai dit. Lorsque tu veux me glorifier, tu me donnes une victime sanglante. Je n'ai rien à faire de ce que tu as travaillé. C'est ce que je te demande, c'est d'obéir. D'obéir. Et c'est ça que ces gens-là, ils faisaient. Les prêtres, encore une fois, ils vendaient cela dans les marchés. Voilà pourquoi, pour les chrétiens, les problèmes, c'était quoi? Cette viande est-elle devenue impure? Parce qu'elle a été offerte à Dieu. Hein? C'est ça. Et aussi, comme et peut-être qu'elle est devenue impure, est-ce qu'elle peut me rendre impure? Est-ce que je pêche en prenant de cette viande? Voilà le problème. Comme je vous ai dit, les sacrifices qu'ils faisaient pour les dieux, c'était quelque chose de réjouissant, parce que tous, ils se réunissaient, ils invitaient. C'est un peu comme nous, quand on fait un baptême, vous voyez, qu'est-ce qu'on fait, quelqu'un s'est fait baptiser, on invite tous les connaissances, tous les amis, alors bon c'est pas pareil, il n'y a pas de... Mais dans cette vie, c'était comme ça. Et alors, peut-être qu'il y avait des anciens païens qui se sont convertis et ils se posaient ces questions-là. Voilà pourquoi ils ont appelé à Paul. Parce que Paul, il répond à des questions qu'on lui avait posées. Et il se disait, est-ce que lorsque un ami, une connaissance, il m'invite pour aller dans ce temple et pour me réjouir avec lui et manger de cette... Est-ce que je dois aller? Est-ce que je dois aller? Ou est-ce que je dois refuser? Et ça, c'est des questions que qu'aujourd'hui aussi se posent. Un jour, je m'en souviens, je crois que c'est Roland aussi, il était là, un jour, je parlais du Bouddha. Je parlais du Bouddha. Et j'ai dit dans mon étude, moi, je mange le Bouddha noir. Dans l'Ancien Testament, c'est marqué qu'il ne faut pas, parce qu'il y a du sang. Et c'est exactement ça que Paul le dit. C'est ça que Paul le dit. Hein? Cette viande sacrifiée aux idoles. Mais Paul le dit, mais il n'y a pas d'idole. Il n'y a pas d'idole. Il n'y a pas d'idole. Voilà pourquoi, dans notre propre vie, il y a des exemples comme ça. J'en ai pris quelques-uns ici. Vous êtes en train d'évangéliser dans la rue de votre cité et vous rencontrez un jeune qui vous offre une bière pour discuter davantage. Vous êtes accompagné par un jeune converti qui sort difficilement de l'alcoolisme. Est-ce que vous acceptez? C'est ça. L'autre exemple dit, votre fils est excellent en judo. On lui demande d'être présent un dimanche par mois pour des compétitions. Vous savez que la compétition, c'est le dimanche. Mais qu'est-ce qu'il arrive? Que le premier dimanche, oui, c'est bon, mais ensuite, ça va être tous les dimanches. Est-ce que vous permettez à votre enfant de... Parce que qui parle des dimanches, il parle de louper le culte. Voilà, toutes ces choses. Et Paul, il va répondre au problème qu'on leur a posé de ces viandes sacrifiées aux idoles. Et il va y répondre avec assurance. Pourquoi je dis avec assurance? Parce qu'il le dit, il dit, nous avons la connaissance. Quelle est cette connaissance qu'ils avaient? La connaissance qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Mais auparavant, il ouvre et dit autre chose d'encore plus important. Hein? Il dit, nous avons la connaissance, mais il dit, la connaissance, une orgueille. Mais l'amour édifie. Si quelqu'un pense connaître quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut, au verset 1 et 2. Voilà ce que Paul nous dit. Nous connaissons. Nous connaissons quoi? Qu'il n'y a pas d'idole. Qu'il y a un seul Dieu. Donc si une viande est sacrifié à des dieux. Nous savons que les dieux, il n'y en a pas. Il n'y a que Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, comme il dit. Et ici, il parle de la connaissance. Un homme qui maîtrise toute connaissance, mais qui en même temps, il porte atteinte à ceux qui sont faibles. Aux faibles. Alors disant, moi je connais, tu peux aller parce que... Non. Il dit, il ne faut pas s'enorgueillir de la connaissance. Parce que la connaissance, c'est Dieu qui la donne. Et lorsque on est parmi des gens qui sont faibles dans la foi, il faut se mettre à leur hauteur.
Il y a une similitude entre Romains 8 et 1 Corinthiens 8.
Aussi.
L'amour.
Aussi.
On ne soit pas les gens, il faut les choquer. C'est-à-dire qu'on manque d'amour, on peut les choquer. Et puis, fais attention, si on l'aime, on ne peut pas
les choquer. Il faut faire attention. Et Paul le dit au verset 4 à 6, il dit, nous savons qu'il n'y a pas d'idole dans le monde. Il n'y a pas, pour nous, il dit nous, les chrétiens, ceux qui croient, hein, et des idoles, il y en a dans le monde. Mais nous qui sommes des chrétiens, nous savons qu'il n'y en a pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car, quoi qu'il y a à ce qu'on appelle des dieux, soit dans les ciels, soit sur la terre, et de fait, il y a beaucoup de dieux et beaucoup de seigneurs. Néanmoins, pour nous chrétiens, hein, c'est ça qu'il met l'accent sur ça. Pour nous chrétiens, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Voyez les Grecs et les nations païennes, ils voyaient dans l'idole une représentation qui véhiculait la pensée vers ces dieux. Ces dieux, cette divinité. On prenait soin de la statue, et elle avait une valeur sacrée. Ça ne vous rappelle rien tout ça? Rentrer dans les églises, avec tous ces statues qui sont bichonnées, qu'on se met à genoux devant eux, ces gens-là, ils faisaient ça. Et il y a une chose qu'il faut savoir, que Dieu, il se moque des idoles. Il se moque des idoles. Souvenons-nous d'Élie au Carmel. Souvenons-nous d'Élie au Carmel. Lisons cette... Un roi 18. Dieu se moque des idoles. Pourquoi? Parce qu'il sait que les idoles ne sont rien. 18, au verset 16. Regarde, lisons verset 16. Vous savez qu'il y a eu, il a invité tous les prophètes à se réunir dans le Carmel, et c'est là que, comme ils étaient un peu des idolâtres, il a dit, il y avait 400 prophètes d'un Dieu, hein, et il leur a dit, bon, écoutez, mettons-nous ensemble, construisons un autel, et on va invoquer, vous invoquez votre Dieu, et moi, je vais invoquer le mien. C'est lui qui répond, alors... Lui, c'est le vrai Dieu. Et il dit, 18, un roi. Abdias s'étant allé à la rencontre d'Akab, l'informant de la chose. Et Akab se rendit au devant d'Élie. À peine Akab aperçut Élie, qui lui dit, est-ce toi qui jettes les troubles en Israël? Les troubles en Israël, pourquoi? Il disait quoi, Élie? Il disait qu'il vivait dans l'idolâtrie. Et alors, Akab, le roi, il disait, tu jettes les troubles en Israël. Tu jettes les troubles en Israël. Élie répondit, je ne trouble point Israël. C'est toi, au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. C'est ça. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal. Et les 400 prophètes, il y en avait des prophètes de Baal et d'Astarté, vous voyez, qui mangeaient à la table de Jézabel. On connaît Jézabel, hein? Achab envoyait des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tous les peuples et dit, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Et c'est exactement ce que nous disons à ceux qui se prosternent devant les idoles, qui ne se tournent pas vers le Seigneur Dieu. Pourquoi vous croyez, vous donnez moitié et moitié? Non, il faut donner tout à Dieu et rien aux autres choses qu'il arrive. Et il dit, si l'Éternel est Dieu, allez près de lui. Si c'est Baal, allez près de lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et il dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne deux taureaux, qui choisissent pour eux l'un des taureaux, et qui le coupe par morceaux, et qui le place sur les bois, sans y mettre les feux. Et moi, je préparerai l'autre taureau, et je le placerai sur les bois, sans y mettre les feux. Puis, invoquez les noms de votre Dieu, et moi, j'invoquerai les noms de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par les feux, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tous les peuples répondirent en disant, c'est bien. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux. Préparez le premier, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas les feux. Ils prirent les taureaux qu'on leur donna, le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal. Depuis le matin jusqu'à midi, en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. Voilà, ça, ils sautaient devant l'autel. Aujourd'hui, vous allez dans les églises pentecôtistes et charismatiques, ils sont là, les gens qui sautent, ils mettent sur les chaises, ils se mettent, ils bougent de tous les côtés. Ça, c'est pour attirer l'attention. Pour attirer l'attention. Mais nous savons que qui sont les adorateurs que Dieu cherche, ceux qui l'adorent en esprit. Et en vérité, ça l'esprit, c'est quoi prier, adorer un esprit? C'est avec le cœur, pas en manifestation. C'est ça que Dieu cherche. Ils crièrent à haute voix, ils se firent selon leur coutume des incisions, des épées et avec des lances jusqu'à ce que les sang coula. Ils font des choses qui étaient interdites par la loi de Moïse. Parce que dans la loi de Moïse, les commandements, c'est marqué, vous ne devez pas vous faire des incisions. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y a eu ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Et j'aime bien Élie. Élie dit alors à tous les peuples, approchez-vous de moi. Tous les peuples s'approcha de lui. Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquelles l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il a tout pris comme Dieu il lui a montré, comme il a montré à Moïse, selon la loi de Moïse. Il a suivi toutes les choses que Dieu il leur a dit. Lorsqu'on ne suit pas les ordres que Dieu donne, il y a des calamités, il y a des jugements. Vous en souvenez des Uzza, hein? Les Philistins, ils avaient pris l'arche, hein? Et ils l'ont gardée, mais Dieu, il a envoyé des maladies. Alors il a dit, débarrassons-nous de l'arche, hein? Et David, il a préparé l'arche, et il l'a mis sur un char. Mais ces chars, c'était pas un neuf. Parce que pour transporter l'arche, il fallait un char neuf. Et il faut aussi des animaux qui n'aient jamais porté les jupes. C'est ça que Dieu lui avait dit. Et il fallait surtout pas toucher l'arche. Alors en la ramenant à Silo, je crois que c'est à Silo qu'il devait la ramener, il est passé, le char, il est passé sur une pierre. Alors, l'arche, elle est tombée. Alors, il y a eu ça. Il l'a retenu comme ça. Sur le moment, on va juger. Et David, il s'est fâché. David, il s'est fâché. Et Dieu, il lui a dit, comment est-ce que tu dois me transporter? Il s'est fâché. Pourquoi tu l'as tué? Il a voulu faire quelque chose de bien, de retenir l'arche de l'Éternel. On ne touche pas l'arche. Dieu, il a dit, ne touche pas. Voilà, c'est toutes des choses qui s'est passé dans cet endroit-là. Il tenait ses idoles, ses statues en grande soin. Et c'est là que Élie, hein, il dit au verset 27, surtout, hein, comme il a vu qu'à midi, personne ne répondait de la part des prophètes, il dit, à midi, Élie se moqua d'eux, il dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose, où il est occupé, hein, le mot hébreu, c'est le mot toilette. Il est occupé. Ou sinon, il est en voyage. Il ne peut pas vous attendre. Et nous, qu'est-ce que c'est qu'on fait lorsqu'on prie le Seigneur? Et on ne m'écoute pas. Nos prières, ils arrivent à Dieu. Le téléphone de Dieu, il n'est jamais occupé. Il n'est jamais occupé. Voilà pourquoi il a dit, oh, peut-être qu'il est en voyage. Peut-être qu'il dort. Et il y a cette psaume qui nous dit, non, il ne dort jamais. Hein? Il ne dort jamais. Non, il n'y a pas d'autre Dieu que l'Éternel. C'est ça que, et dans les psaumes 115, 5, 6, voilà ce qu'il dit. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles ont une bouche et ne parlent pas. Elles ont des yeux et ne voient pas. Elles ont des oreilles et n'entendent pas. Elles ont un nez et ne sentent pas. Comment ces gens-là, aujourd'hui, dans les églises, je parle surtout de l'église catholique, qui est pleine de statues et tout ça, ils n'ont pas lu ce verset-là. Et ce verset, c'est clair. Le psaume 115, c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Lorsque tu te prosternes devant une statue, lorsque tu la portes, c'est pas chez moi, en Sardaigne, ils le font très, très, très souvent, hein. Très souvent, chaque pays, là, chaque village, il a son saint protecteur, ou sinon à telle autre date, il y a la sainte protectrice, et voilà. Et chaque fois, lorsque la date il est là, on la sort par les villages, on la porte là. Et si vous voyez à Pâques, à la résurrection, hein, ils font partir les Christ d'un côté, et de l'autre côté, c'est la Vierge. Et alors, à un certain moment, ils se rencontrent. Et là, des coups de fusil, de chevaux et tout ça, c'est la rencontre. La rencontre de Christ avec sa mère. Mais la rencontre, c'est avec tous ceux qui croient en Jésus-Christ, qui ont ouvert leur cœur. Voilà pourquoi Paul il met les choses bien en clair. Hein? Voilà les statues de Marie. Hein? Il dit le commandement de Dieu, Exode 20, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas de statue ni de représentation de quelqu'un. Et il y a des vierges blanches, il y a des vierges noires, il y a des vierges chinoises, et il y a des vierges arabes. Voilà, c'est vraiment de l'abomination et c'est vraiment de l'aboutissement de ces idoles. Et pourtant, la Bible est claire. La Bible est claire. Elle est claire. Jérémie 10, 5, il dit, « Ces dieux sont comme une colonne massive. Ils ne parlent pas. On le porte. Oui, on le porte parce qu'ils ne peuvent faire un pas. Ne les craignez pas. » car ils ne sauraient faire aucun mal, de même qu'ils sont incapables de faire aucun bien. Aucun bien, aucun bien, c'est ce qu'il dit. Hein? Hein? Paul il rappelle donc que même s'il y a des multiples descriptions des divinités, au verset 6 il dit, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de qui viennent toutes choses, et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Il n'y a pas de Dieu ou de démons à craindre dans la viande. Voilà ce qu'il dit, parce qu'il dit que c'est de la viande impure. Et lorsqu'on dit la viande impure, c'est les démons. Et Paul, il leur dit, il n'y a pas de Dieu ou de démon à craindre dans la viande. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et Jésus, il le dit aussi, écoutez-moi et comprenez, il n'y a rien de dehors qui entre dans l'homme et qui puisse le rendre impur. Tu peux manger de la viande sacrifiée, je peux manger du boudin, c'est pas ça qui va me rendre impur. Mais c'est de ça qui Paul dit, la conscience de toi-même, hein, ça c'est le premier principe. Toi-même tu peux dire, voilà, il n'y a pas d'idole, il n'y a qu'un seul Dieu, mais je ne sais pas d'où il sort, mais je la mange. Je la mange, parce que ces choses-là, c'est rien. Hein? Et continue Jésus, mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui les rend impurs. Ce n'est pas ce qui rentre en nous qui nous rend impurs, mais ce qui sort de l'homme. C'est ainsi que Paul le rappelle, ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Mais non, ce n'est pas ça, en Corinthiens 8:8. Mais puisque la question elle est là, on peut... La liberté des chrétiens, c'est on peut manger ou on ne peut pas manger. C'est ça que Paul leur dit. Mais il dit, Paul aux Romains, il dit, mais celui qui a des doutes, qui n'en mange pas. Mais il peut en manger, mais si tu te dis, mais peut-être que, n'en mange pas. Si tu en manges, tu ne pêches pas. Si tu n'en manges pas, tu ne pêches pas non plus. Voilà pourquoi ce premier principe, c'est toi-même, ta conscience. C'est à toi de juger. Mais encore une fois, comme le dit Paul, nous avons la connaissance. Mais tous n'ont pas cette connaissance. Voilà pourquoi il faut faire attention à ce qui nous entoure. À ceux qui nous entourent. Vous savez, ce n'est pas l'idole qui est quelque chose, mais c'est l'attitude qu'on a par rapport à cette chose. C'est l'attitude qu'on a par rapport à cette chose. Vous en souvenez, les Éphésiens, lorsqu'ils se sont convertis, ils pratiquaient beaucoup la magie noire, ils avaient des livres. Lorsqu'ils se sont convertis, ils ont pris tous leurs livres et les ont brûlés dans une place. C'est ça, ce qui compte, c'est l'attitude, l'attitude. Si, voilà, il faut faire selon la connaissance qu'on a et faire selon la conscience. Okay. Comme il dit ici, si vous considérez que les porcs ne doivent pas se manger, n'en mangez surtout pas. Si vous considérez que vous ne pouvez pas manger de la viande sur laquelle un imam a prié, n'en mangez surtout pas. N'en mangez surtout pas. Si vous pensez qu'il ne faut jamais boire une goutte d'alcool, n'en buvez surtout pas. C'est encore la conscience. Hein? Oui. C'est ça le premier principe de Paul.
Tout ce qui n'est pas le fruit de conviction est péché.
Exactement. Si vous pensez qu'il ne faut pas danser, mettre du maquillage, aller au théâtre, jouer au billard, ne le faites surtout pas. Si vous n'êtes pas convaincu, ne le faites pas. Pourquoi? Parce que nous sommes libres en Christ. Nous pouvons le faire et ne pas le faire. En tant que chrétien, est-ce que je ne peux pas faire la même chose qui fait le monde? Je peux le faire, mais je ne le fais pas. C'est ça la liberté. Il y a des tentations autour de moi. Je peux y tomber, on n'est pas y tombé. Quelqu'un qui n'a pas Christ lorsqu'il y a une tentation, il y tombe. Mais moi, j'ai Christ, il m'a donné la liberté de choisir. De choisir. Et c'est ça que Paul lui dit. Et le deuxième principe, c'est la conscience des autres. Vous comprenez le chapitre 8, c'est très important sur ces choses-là. D'abord, ta conscience. Si tu crois que, ne le fais pas. Mais il y a aussi le principe de la conscience des autres. Car les chrétiens, nous ne vivons pas dans une île. Nous ne sommes pas seuls. Nous devons veiller à ceux qui sont autour de nous en leur donnant un bon témoignage, en leur parlant d'une autre façon, qu'ils sont habitués à entendre. Hein? Et il y a tout autour de nous, il y a des gens qui ont des différents niveaux de connaissances. Donc, c'est à nous comme il dit Paul, nous avons la connaissance. C'est à nous de leur dire. Voilà pourquoi Paul dit, prenez garde toutefois que votre droit ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Toi, tu es chrétien, tu peux dire, tu es avec un musulman, il y a du jambon. Tu es chrétien, tu dis, du jambon, je ne peux pas dire, je suis libre. Mais tout à côté, il y a un musulman. Et alors, il dit, mais comment ça se fait, tu sais que les musulmans ne mangent pas. Alors, il faut pas manger pour ne pas être un scandale à l'autre. Mais en même temps, tu lui dis, voilà, moi je crois que, oui.
Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais il y a un truc qui me vient à l'idée que je pense en ce moment, c'est que, mais je sais pas tout, parce que je sais pas dans quel texte ça se trouve, mais c'est où Paul dans les actes, il disait aux nouveaux convertis, il demandait comment il fallait agir avec les nouveaux convertis. Mmh. Et il dit, dans ce texte, que je ne me rappelle pas, il dit qu'on ne leur impose pas autre chose que de ne pas manger les animaux étouffés, le sang.
Voilà. Aucun fardeau en plus. C'est ça. Voilà pourquoi Paul, dans ce chapitre, il met le principe de ta conscience. Nous savons, en tant que chrétiens, nous savons que je peux ou je ne peux pas. Mais il y a aussi le principe des autres. S'il y a quelqu'un qui est faible dans les connaissances, et toi tu as la connaissance, tu t'astiens, même si tu dis, mais je peux en manger. Ah non, mais lui, mais je peux en manger, moi je sais que je peux en manger, j'en mange, je m'en fous de lui. Voilà, c'est avoir cette conscience de l'autre. Je fais certaines choses, je peux faire tout si ces choses-là, ils ne blessent pas celui qui est à côté de moi. Voilà pourquoi Paul dit, on l'a lu, il dit, et nous nous connaissons, mais plus loin il a dit, mais la connaissance est orgueil. Voilà, moi je mange, je connais, hein. Toi tu connais rien, hein. Voilà, mais ça peut donner de l'orgueil, mais tout à côté de toi, il y a quelqu'un qui n'a pas cette connaissance. Donc, il faut agir d'une façon différente. Parce qu'on n'est pas seul. C'est des gens qui sont faibles, qui ne connaissent pas encore ce que Dieu il a établi. Voilà pourquoi il faut faire très attention et pas essayer avec cette connaissance d'écraser l'autre. Montrer notre science, voilà. Non, il faut regarder celui qui est à côté de nous et leur montrer que la connaissance, il faut la montrer, mais aussi la pratiquer, pratiquer l'amour tout autour de nous.
Romain 8.
C'est ça. Parce que déjà, ceux qui n'ont pas Jésus-Christ, ils sont pleins de fardeaux dans leur vie. Il ne faut pas encore leur en mettre. Pourquoi? Parce que Dieu, il nous a libérés. Et vous savez, Paul, il est contre la connaissance qui écrase les autres. Il nous a dit au verset 12, « Et ainsi les faibles périssent par ta connaissance. Le frère pour lequel le Christ est mort, en péchant de la sorte, vous péchez contre Christ. » On pêche si on montre notre connaissance et pour écraser l'autre. On pêche. C'est Paul, il est clair. Hein? Et il dit qu'on fait du mal, pas à celui qui est à côté de nous, mais à Christ. Parce qu'il est mort pour cette personne-là. Voilà pourquoi Paul dit, si un aliment, verset 13, fait tomber mon frère, jamais plus je ne mangerai de viande. Jamais plus. Pourquoi tu as mangé aujourd'hui? Afin de ne pas tomber mon frère. Voilà, j'ai la conscience de ceux qui nous entourent. Voilà ces deux principes. Ma propre conscience et celle des autres. Hein? Celui de... Pourquoi? Parce que Christ nous a libérés. C'est la liberté chrétienne. Nous sommes libres de faire ou de ne pas faire. Paul, il a dit au chapitre 5, je crois, il a dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. En tant que chrétien, je peux manger et je ne peux pas manger. C'est selon notre conscience. Mais Paul dit, nous savons le principe de la conscience, notre propre. Mais il n'y a pas que nous, il y a les autres. Si les autres ils pensent que cette chose n'est pas bien, je ne le fais pas pour ne pas être contre lui, pour qu'on vive en paix, dans l'amour. Parce que Jésus, il est venu ici en amour et il nous a libérés. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Nous ne sommes plus esclaves. Nous pouvons refuser de suivre les tentations de Satan parce que Jésus, il nous a donné le pouvoir de lui dire non. Mais encore, c'est à nous de lui dire non. Mais nous avons ce pouvoir. Nous sommes libres. C'est ça que beaucoup de gens, ils ne réalisent pas. Qu'on est libre de faire ce qui nous plaît. Et c'est à ça que dans ce chapitre 8, Paul il nous mène. Le principe de la propre conscience, je peux ou je ne peux pas. Et la conscience des autres. Je peux, mais le frère ou mon prochain, il est là, qui peut-être il n'apprécie pas, alors je ne mange pas. Même si je connais, moi je suis fort, je connais, mais lui, il est faible. Alors il faut le ramener là où nous sommes. Voilà ce que Paul voulait nous dire dans ce chapitre 8. Amen.